Allô, John, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir dans votre emploi du temps extrêmement chargé. Merci de me recevoir à Paris alors que vous travaillez à Rome. Oui. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Hélène Keller qui souligne « Je vis par et pour les autres ». Seul, je ne peux rien faire, ou si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Voilà qui je suis. Et vous, Alois Jones, qui êtes-vous ?
Qui suis-je ? C'est toujours une question délicate et difficile à répondre. Comme ça a été dit, je suis quelqu'un qui vit pour les autres. Quelqu'un qui a une vision du monde, un monde meilleur. Pas pour soi-même, mais pour les autres, parce que en espérant, en rêvant un monde meilleur pour les autres, on est dans un monde qui est meilleur pour tous, et dans lequel moi je suis aussi. Donc ensemble, je pense qu'on peut avoir un autre monde qui est différent, avec des valeurs, et donc je vais être quelque part un artisan qui contribue à construire ce monde meilleur.
Un artisan qui contribue. On va en reparler de cet artisan que vous êtes. Peut-être, quelle est, selon vous, votre plus belle qualité pour vous ?
Encore une autre question délicate. Ma plus belle qualité, c'est l'écoute, mais quand j'ai envie, quand ça m'arrange. Mais je suis quelqu'un qui écoute. Et aussi, respect de l'autre. Parce que moi, je veux être respecté, donc je respecte les autres. Donc ça aussi, c'est une autre qualité, respecter les autres. Et puis aussi, quelqu'un qui veut être en communion avec les autres. Parce qu'on est dans un monde de rupture. On est dans un monde qui est complètement dans une bulle, où chacun est dans une bulle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus en communion avec les autres, aller vers les autres, pour que nous puissions vraiment construire un monde qui est solidaire. Donc, dans ce sens, une des qualités, c'est d'écouter, comprendre et aussi être avec les autres.
Alors, on va reparler de tout cela parce que les mots que vous utilisez, les adjectifs que vous utilisez sont au cœur même de cette interview anthropologique et philosophique. Alois John, vous êtes depuis, ça va faire depuis 4 ans, ça fait depuis 4 ans, en tout cas le 27 mai, que vous êtes secrétaire général de Caritas Internationalis. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, mais vraiment très brièvement, à tous les étudiants et les étudiants qui nous écoutent, donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît.
Grandes lignes de mon carrière professionnelle. Donc, en termes d'études, déjà, j'ai fait une partie, je suis d'origine indienne. J'ai fait une partie de mes études en Inde, donc j'ai fait les mathématiques et sciences de l'éducation et un peu de psychologie. Et puis je suis venu en France et je commence à faire le diplôme d'assistance sociale et une maîtrise en travail social appliqué au travail et la sociologie à l'école des hautes études. Donc avec ces études, j'ai commencé à travailler au début dans l'industrie alimentaire. Dans les cafés en 1981, quand je suis arrivé, en novembre. Et donc, je suis resté un an et demi. Et j'ai quitté ce travail parce que ça ne m'intéressait pas. Alors, c'était un travail où on était un peu robotisé, on était des robots, et on travaillait pour le profit. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est le profit qu'on cherche ou bien est-ce qu'on cherche à être avec l'homme ? Être dans une communauté d'hommes qui ne cherche pas le profit, mais qui cherche plutôt la relation, la communion et aussi vivre ensemble. Donc, ça m'a amené à quelque part à révolter un petit peu aussi. Et donc, du coup, en 1983, il y avait un poste qui s'est libéré au Secours catholique. Donc, j'ai quitté ce travail pour aller dans ce poste au Secours catholique qui était un inconnu. Le travail, c'était un travail que je ne connaissais pas, mais j'avais une idée de quoi il s'agissait en tant que responsable de travail social. Donc, ce travail, quand j'ai passé l'interview, ça montrait, ça m'indiquait quelque part que ça pouvait répondre à mes attentes. Donc, j'ai pris ce poste. Je suis resté jusqu'en 1986. Et puis, je suis allé dans un foyer pour les sans domicile fixe, encore contact et être avec les gens, avec les pauvres. Et puis, en 1989, j'ai été appelé à venir au siège à Paris pour être responsable de projet pour l'Asie et donc dans l'international. J'ai resté jusqu'en 1992 et j'ai été nommé responsable de département Asie et Moyen-Orient. Et ensuite, c'est parti pour jusqu'à 2004, où j'ai piloté le programme Tsunami, 80 millions d'euros. Et puis donc, j'ai piloté ce programme en Asie, plus particulièrement au Sri Lanka. Et puis, je suis resté jusqu'en 2012. Et en 2013, je suis arrivé à Rome en tant que directeur de développement institutionnel. Et en 2019, j'ai été élu secrétaire général. Donc, c'est un parcours qui me convenait, qui était dans ce que je cherchais. Donc, un parcours, je ne dirais pas monotone, mais un parcours qui était assez cohérent à mes souhaits, à mes valeurs et à ce que je voulais faire. Donc, voilà. À part ça, j'ai été aussi enseignant à l'EFAC.
Et alors, depuis, comme vous dites, depuis 2019, vous êtes secrétaire général de Caritas Internationaliste à Rome. Présentez-nous à la fois votre travail et puis cette grande organisation, puisque c'est une ONG.
Caritas Internationaliste, ce n'est pas le travail du secrétaire général ou le travail dans le Caritas, ce n'est pas un métier. Hein, c'est une mission. Nous remplissons une mission. Une mission de service à l'homme. Mais, comme dit le pape Benoît XVI, cette mission doit être ordonnée, doit être construite et doit être professionnelle avec la dimension de cœur. Donc, Caritas Internationaliste est une vaste, réseau de solidarité et de charité. Le premier réseau après la Croix-Rouge mondiale, parce que nous sommes présents dans 200 pays. Nous avons 162 membres présents dans 200 pays et chaque Caritas est en contact direct avec la condition de pauvreté, la situation de pauvreté dans les communautés locales. Donc le travail consiste à animer ce vaste réseau. Donc animer ce vaste réseau, ça veut dire que nous avons un cadre stratégique. Le cadre stratégique a 5 orientations. Donc première orientation étant l'identité de Caritas, il faut le promouvoir, il faut le faire vivre. Deuxièmement, sauver les vies humaines. Donc, nous sommes présents partout dans le monde, là où il y a des urgences. Mmh. Là, par exemple, l'Ukraine, nous sommes là avec un projet de 40 millions d'euros. Tsunami, 250 millions d'euros en 2004, ainsi de suite. Et puis, donc, deuxièmement, sauver la vie, c'est la deuxième orientation. Et la troisième orientation étant tout ce qui est d'être la voix des sans-voix, voix des pauvres. Donc, faire connaître leurs souffrances. Faire entendre, comme dit le pape François, aujourd'hui nous sommes dans une situation de péché d'indifférence, hein, parce qu'on est complètement indifférent à la souffrance de l'autre, et puis on peut complètement oublier le pauvre. Donc là, notre but est de faire connaître, faire entendre la voix des pauvres. Et le quatrième est donc communiquer pour témoigner. Donc ça, c'est notre travail, on communique pour témoigner. Et puis donc, on fait connaître l'aspiration des pauvres, parce que les pauvres, ils ont les aspirations. Donc, on les fait connaître, on travaille sur ça. Et le cinquième étant, pour faire tout ce travail, il faut des institutions fortes. Donc, notre travail consiste à renforcer les Caritas dans le monde entier pour que chaque Caritas puisse être vraiment un acteur privilégié avec les pauvres et qui accompagne les pauvres, qui défend les pauvres et puis qui sert les pauvres, hein, qui sont capables de servir les pauvres pour que les pauvres puissent trouver leur aspiration à puisse avoir une réponse à leurs besoins fondamentaux. Donc voilà, donc le travail de Caritas consiste à animer tout cela. Le secrétaire général, il doit être gage de union parce que c'est un vaste réseau, 162 Caritas, une diversité. Et donc il faut trouver l'unité dans cette diversité et donc il est là pour créer cette unité et aussi il est là aussi pour faire témoigner la relation entre l'Église et la société, et la caritas. Comment est-ce que tout ça travaille?
Alors, Aloy Jones, je trouve que vous avez votre mission, en tout cas, on sent que vous la vivez pleinement. Vous avez utilisé, puisque c'est votre mission que vous menez, être au service des pauvres. Et quelle définition donnez-vous du pauvre? Qu'est-ce qu'un pauvre?
Le pauvre, qu'est-ce que c'est un pauvre? C'est facile et compliqué. Facile parce que un pauvre, c'est si je vois l'Évangile. Sur la route de Jéricho, l'homme qui a été battu par les voleurs, et après il y a deux personnes qui passent devant, et une personne qui passe, il dit il a d'autres choses, donc il n'a pas le temps pour s'occuper de lui. Deuxième personne qui part, il dit ah non, ce n'est pas ma priorité. Après arrive un Samaritain, et lui il descend à son niveau pour écouter et puis pour l'aider. Donc de là, la notion de pauvre aujourd'hui, c'est celui qui est laissé au bord de la route, qu'on n'entend pas. Il existe, mais on n'entend pas. Il est là, mais on ne va pas le reconnaître. Et il a ses aspirations, mais on ne donne pas la possibilité d'exprimer ses aspirations. Donc aujourd'hui, le pauvre, aujourd'hui, c'est celui qui a la même vocation que Jésus quand il était, jeune. Il était là, enfant de charpentier. Hein, donc, c'est la même chose aujourd'hui. La personne qui est complètement oubliée, noyée dans le mal, noyée dans l'océan d'indifférence. Et puis, donc, pour moi, la définition de pauvre, c'est celui qui est laissé au bord de la route.
Mais est-ce que, d'une certaine manière, à une certaine échelle, différentes échelles, ne sommes-nous pas tous pauvres?
Oui, tout à fait. Nous sommes tous pauvres d'une manière ou l'autre, hein, parce qu'il y a la pauvreté spirituelle, parce qu'il y a en Occident qu'on voit comment il y a la notion de pauvreté spirituelle, parce qu'on a tout, mais il y a des gens qui ne sont pas heureux. Donc il y a cette pauvreté spirituelle. La quête de sens, c'est aussi une autre forme de pauvreté qui nous pousse à la quête de sens. Après, il y a aussi la pauvreté économique, et après, il y a aussi la pauvreté, je dirais, psychologique et sociale. Et donc, il y a diverses formes de pauvreté. Et Caritas essaie de répondre aussi à ce type de pauvreté. Par exemple, nous avons une action auprès des jeunes, par exemple. Et dans l'action auprès des jeunes, nous essayons de répondre à cette quête de sens. Parce que sinon, ça répond à cette à un niveau de pauvreté. Parce que les jeunes, ils ne savent pas comment répondre, comment rechercher les valeurs, comment vivre des valeurs, parce qu'ils ont tout. Et donc là, nous donnons d'autres formes de références, etc. Et donc, dans ce sens, c'est aussi, oui, il y a différentes formes de pauvreté, et Caritas répond à ces formes de pauvreté aussi.
Oui, mais finalement, en préparant cette interview, je suis tombé sur une citation de Léon Blois qui souligne que la misère est le manque de nécessaire, la pauvreté est le manque de superflu. Quelle différence faites-vous entre la misère et la pauvreté?
Quelle différence entre misère et la pauvreté? Oui. La misère, comme vous avez dit dans la citation, c'est le manque de nécessité de base. C'est ça. Donc la personne qui est dans une situation de misère, il lui manque l'essentiel. Parce qu'il n'a plus de quoi. Il ne peut pas vivre comme un être humain normal. Mais la pauvreté dans le sens que vous avez dit, dans le sens philosophique, je dirais, vous dites, oui, c'est le manque de superflu. Vous dites,
oui, manque de superflu. Oui,
superflu. Oui, mais ce superflu, c'est quoi en Occident? En Occident, c'est superflu. En Occident, c'est les valeurs. Hein, ces valeurs, le sens de l'homme. Sens de l'homme, les valeurs. Le pape François, il parle toujours d'un fratelli tutti. Il parle d'aller vers l'autre. On n'a pas envie d'aller vers l'autre. On attend que les autres ils viennent. Et même s'ils viennent, on n'a pas le temps. Et puis après, donc ça c'est devenu un superflu aujourd'hui. Parce que le reste, on a le reste. Parce que ça devient quelque chose de normal et naturel. C'est comme ça que je le comprends. C'est devenu quelque chose de normal. Avoir un téléphone aujourd'hui, c'est normal. Et j'ai vu parfois même des personnes mendiant, ils ont un téléphone. Donc, ça est devenu quelque chose d'accessible. Donc, la pauvreté, ce n'est pas avoir manqué l'accessible, hein, c'est manquer ce superflu qui est, je dirais, supérieur. hein, qui est quelque chose d'important, quelque chose de vital, quand l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter, c'est une attitude, c'est l'être. Et aussi, je dirais, avoir une autre conception de soi-même. Parce que moi, je ne suis plus cet être humain qui a tout, il faut tout pour vivre, mais c'est plutôt être humain qui donne l'importance à l'être et non pas à l'avoir.
Oui,
Voilà.
c'est vrai, mais alors à quel moment, parce que c'est pas évident la limite, vraiment, je dirais la frontière entre le nécessaire et le superflu, parce que on fait du superflu une nécessité finalement. On arrive à faire de nos désirs un véritable besoin.
Aujourd'hui, c'est superflu en termes de valeur. En Occident, si vous faites référence à l'Occident, oui, ça a devenu une nécessité auquel on doit répondre aujourd'hui. Parce que sinon, le sens. Par exemple, si je prends l'Inde d'où je viens, en Inde, quelqu'un qui est dans la misère, qui n'a pas de. Qui est pauvreté dans le sens, je dirais, classique qu'on entend, hein, le miséreux, je ne sais pas dire, oui, lui, en donnant à manger, il peut vivre, il peut survivre. Et en donnant un peu d'argent, il va acheter, il doit trouver à acheter. Parce que pour lui, c'est le moyen qui manque. Tandis qu'en Occident, ce n'est pas une question de moyens. C'est superflu que vous dites, c'est l'argent ne peut pas l'acheter. L'argent ne peut pas acheter. C'est plutôt quelque chose qui doit être supérieur. C'est plutôt une mentalité, c'est une attitude, c'est savoir être et le être même. Alors, de dire un jour, dire que j'ai tout, mais pourquoi je ne suis pas heureux? Vous voyez? Et c'est là, ce superflu, quelque part, ne s'achète pas. Et souvent, on dit, une fois, quand je suis allé au Bangladesh, j'ai vu comment un enfant, en prenant une boîte de allumettes, il coupait quatre rondelles de carottes, il a mis une petite, comment, des épingles. Il avait sa charrette, il jouait avec ça. Ici, avec le jouet comment, télécommandé, tout ça, les enfants ne sont pas contents, ils veulent plus, encore plus. Mais là, j'ai vu, j'étais assez étonné de ce gamin jouer avec ça. Donc, voilà la différence. Entre le pauvre qui a nécessité, donc il a de quoi jouer, mais l'autre côté, il a tout, mais le superflu qui manque. Donc, dès le petit âge, ça commence.
C'est
Donc,
ça.
c'est des valeurs. Moi, je dirais, c'est des valeurs. La conception de soi et appartenance à une communauté d'hommes et femmes et dans lequel on doit être en situation de relation, de communion, de contact.
Mais pourquoi alors, selon vous, pourquoi en Occident, le pauvre fait peur? Vous voyez, dans la rue, par exemple, j'observe, et je reconnais que moi, c'est pareil, le pauvre fait peur parce que, mais c'est la question que je vous pose, mais pourquoi avons-nous peur de regarder le sans-domicile fixe droit dans les yeux, comme si, il allait nous demander quelque chose, c'est peut-être même pas ce qu'il souhaite aussi.
Oui, le pauvre fait peur parce que il me défie. Il défie mon opulence. Hein? Il me déconcerte. Parce que il me fait comprendre qu'on a tous les deux la même existence, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même existence. On a l'existence, mais ce n'est pas le même. On respire, on vit, mais dans notre tête, ce n'est pas le même. Donc là, ça renvoie à ma propre image d'opulence, à ma propre image d'égoïsme et à propre image de bulle dans laquelle je vis. Et donc, ça me déconcerte. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une des raisons que Caritas en donne beaucoup, beaucoup d'importance à créer la solidarité entre le pauvre et les riches dans une communauté. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec les communautés locales. Là, on ne fait pas la différence entre les riches et les pauvres. Les gens sont là, mais comment vivre en tant qu'humain? Donc, aujourd'hui, le pauvre, il a envie de me faire découvrir mon humanité, mais je refuse. Je refuse parce que pour moi, j'ai un tas de filtres qui m'empêchent de voir l'humanité. C'est en anglais, on dit take for granted. Hein? Je le prends pour l'argent comptant. Mais cette humanité, il faut le découvrir au quotidien. Au quotidien, il faut le découvrir. Et c'est là, le pauvre, il me déconcerte. parce qu'il m'amène. Et si je découvre cette humanité, dans ce cas-là, peut-être les choses que j'ai, je n'aurai pas besoin.
Oui.
Et je n'aurai pas besoin. Et peut-être je vais adhérer à d'autres valeurs. Et je ne vais pas courir derrière le temps. Je ne vais pas courir derrière la modernité. Je ne vais pas courir derrière l'argent. Mais donc là, il me déconcerte. Et donc, dans ce sens, pour répondre à votre question, je n'ai pas envie de le voir.
Oui, c'est ça.
Et ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé à quelqu'un pour un chemin. J'étais perdu, je ne sais plus dans quel pays. J'ai demandé à quelqu'un. Un gars qui est complètement sale, il vient me dit, montre le chemin. Mais je n'étais pas prêt à entendre ce qu'il disait. Et après coup, le soir, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, j'ai dit, ce gars, il connaissait peut-être le chemin que je demandais. Il voulait se rendre, parce qu'il ne demandait rien. Il voulait se rendre utile, l'utilité sociale. Et j'ai dit, tiens, tu n'as pas donné la possibilité pour donner cette utilité sociale. Et donc, dans ce sens, le pauvre déconcerte. Vous voyez? Donc, la question pour nous, c'est comment entrer en relation avec les pauvres. D'abord, faut-il entrer en relation avec les pauvres? Si oui, pourquoi? Et après, comment on peut le faire?
C'est ça, mais avec John, j'aime beaucoup votre réflexion, et vous venez d'utiliser un concept de l'utilité, d'utile, vous parlez d'utilité. Quelle place, ma question est la suivante, quelle place mettez-vous entre la solidarité, quelle place de l'utilité mettez-vous entre la solidarité et la charité? Parce qu'on a tendance à mélanger ces deux concepts. Peut-être y a-t-il une confusion que nous faisons, et peut-être pouvez-vous nous éclairer entre ces trois concepts-là?
Il y a une différence, je comprends, il y a une différence nuancée.
Voilà.
Parce que quand on parle de solidarité, moi, si je vois du point de vue physique ou chimie, solide, c'est comment les deux éléments qui se fusionnent. Donc, la solidarité, c'est entrer en solidarité avec quelqu'un, c'est entrer en relationnel avec le pauvre, etc. La notion de charité, c'est un acte. C'est un acte qu'on fait pour aller vers l'autre, pour aller à son niveau, pour l'aider à grandir. Pour l'aider à grandir. Donc, la charité, quelque part, libère la personne qu'on aide. Par exemple, dans le Bon Samaritain, dans le parable du Bon Samaritain, le Samaritain, son acte libère la personne qui était blessée au bord de la route. Ça le libère. Et donc, du coup, lui aussi, il est libéré. Donc, la charité libère l'autre et il me libère aussi. Tandis que la solidarité, c'est un acte de solidarité, c'est un acte naturel d'aller vers l'autre. Et on a quelque chose, donc je partage avec l'autre. Donc, je partage, je donne. Donc, je donne, j'aide. Tandis que la charité a aussi cette notion de don de soi. Parce que moi, dans cet acte de charité, souvent quand je réfléchis, je dis, il y a aussi cet aspect égoïste. Parce que moi, je veux grandir aussi. Je veux grandir aussi.
C'est ça.
Je veux grandir. Donc, cet acte m'aide à grandir. Et c'est là, je pense qu'aujourd'hui, souvent, dans le travail social, en France, je suis à la base assistant social. Et donc là, on mettait la différence entre charité et solidarité. Parce que charité, c'est pour l'Église. Non. La charité, c'est pour tout le monde. Parce que la charité, c'est un acte qui m'amène à être en relationnel avec l'autre. Et ça me permet de grandir. Et ça permet l'autre de grandir. Et c'est un acte égoïste en soi. Et là, souvent, on fait cette différence. Voilà.
Non, pardon. Oui, excusez-moi, je rebondis à l'instant sur ce que vous dites, parce que vous dites que c'est un acte égoïste. J'allais vous poser la question suivante. Finalement, si c'est un acte égoïste, le don est-il toujours gratuit? Donner, est-ce gratuit ou attendons-nous pas finalement quelque chose en retour?
Rien n'est gratuit dans ce monde. Parce que, comme on dit en physique, toute action a une réaction. Toute chose se transforme. Je pense que le don, le don quelque part libère. Et cette libération, quelque part, de soi, et le retour que je reçois, est-ce que c'est gratuit ou pas gratuit? Ce n'est pas gratuit, parce que j'ai grandi aussi. Et une société a besoin de grandir. Une société a besoin de grandir. Et grandir ne peut pas se faire comme ça. Parce que quand il y a un enfant, lui, il pleure, il fait comprendre, les parents l'aident, et puis donc, les parents aident un enfant, les parents aussi grandissent, ils commencent à le voir grandir, et donc l'épanouissement, comme on dit, et donc, il n'y a aucun acte qui est gratuit. Donc, quand on parle de charité, quand ce don, quelque part, permet à celui qui donne d'abord de se libérer, parce que si je vois le bouddhisme, hein, donc c'est don, hein, donc quand on donne, dans le bouddhisme, c'est on donne, aller vers l'autre, on donne, je me détache, parce que la tendance aujourd'hui, c'est de garder tout.
C'est ça.
De garder tout pour moi, et garder, parce que c'est lumière. Non, le pape Jean-Paul II parle de destination universelle des biens. Paul VI aussi, je pense, parle de destination universelle des biens. Donc le bien est donné pour tous. C'est prévu pour tous. Et moi, je n'ai pas le droit de garder pour moi-même. Je suis garant de cela, et donc il faut que je partage. Donc la charité, quelque part, libère celui qui donne et libère celui qui reçoit aussi.
C'est
Et
ça.
donc, dans ce sens, il y a donnant-donnant. Il y a donnant-donnant. Et oui, quand, mais par contre, je ne fais pas ça sciemment en pensant que je reçois quelque chose. C'est quelque chose qui induit. Qui induit. Et après, ça devient quelque chose qui est naturellement, qui me fait grandir.
C'est ça, mais alors le fait de donner, je trouve que dans je dirais le mot charité, même donner gratuitement, sans rien attendre en retour, pose de véritables questions et peut-être problèmes éthiques. Parce que finalement, je donne un exemple très, très concret, la pauvreté. Nous voyons une personne dans la rue sans domicile fixe, on dit on va lui donner. Et puis, on voit quelques temps après que cette personne, finalement, est assez riche. On la voit dans d'autres contextes, etc. Est-ce que la question suivante au niveau éthique, c'est doit-on aider tout le monde sans même savoir la vie qu'elle a derrière? Regardez, tout à l'heure, vous donniez l'exemple d'un sans domicile fixe qui avait un portable. Dit, ben finalement, est-ce qu'on peut donner alors que derrière, qu'on n'est pas censé se connaître?
Il y a plusieurs éléments dans votre question. Premièrement, je dirais, même si on voit dans l'évangile, c'est assez parlant, il y a deux personnes qui sont là. Il y a un homme qui dit, voilà, je donne tout à tout le monde, il est riche, je donne mon superflu, je donne. Après arrive une femme qui a le dernier... centime qu'elle a, elle vient, elle le pose dans le tronc. Donc c'est là Jésus il dit, mais qui a donné plus? Donc cette personne, donc le riche, quand il a donné son superflu. Après il vante, après il dit j'ai donné, donc j'ai droit à quelque chose. Tandis que cette femme qui vient, elle dit c'est la dernière pièce qui existe et elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va se priver. Elle vient, elle le donne. Donc dans la comparaison de ces deux actes, d'un côté, il y a une sorte de dépossession, possession de mon bien. Ça peut être insignifiant pour quelqu'un, mais ça, c'est très important pour celui qui donne. Donc, il le donne. Tandis que l'autre, il donne le superflu, et donc, quelque part, ça va dire, ça devient une sorte de routine. Je le fais parce qu'il faut le faire, ou bien ça me donne bonne conscience. Et voilà. Ce n'est pas une question de se donner bonne conscience, ou bien ce n'est pas une question de routine. C'est une question qui est inconsciemment, quelque part, m'amène à dire, je vais me déposséder de cela. Parce que cette dépossession des choses me libère.
Vous voyez? Oui, mais alors est-ce que cette dépossession, ce n'est pas une certaine justification? On se justifie en donnant.
Est-ce que cette vieille qui a donné ce cent, est-ce qu'elle s'est justifiée? Non, parce qu'elle a dit, il y a peut-être quelqu'un plus nécessité que moi. J'étais dans le camp de Rohingya, c'est un bon exemple, les 2 mois, au Bangladesh. Donc, en discutant avec des personnes, il y a une dame qui me disait, écoutez, moi, chez moi, j'ai dit, sur le toit, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez des légumes qui poussaient sur le toit. Je dis, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme, elle dit, oui, je l'ai fait pousser, parce que moi, j'ai de quoi manger, et je peux donner à ceux qui n'ont pas le moyen de... faire ça chez eux, je le donne. Et c'était quelque chose de naturel.
Naturel, c'est ça.
Naturel. Et pour elle,
quelque part, elle m'a rappelé, nous ne sommes pas des animaux. Mm-hmm. Vous voyez, nous sommes des êtres humains. Donc, je sais que quelqu'un a besoin, donc je vais le donner. Et c'est pareil dans le peuple tribal, dans le sud des Philippines, il y a 15-20 ans, quand je suis allé là-bas, il y a notre caméraman qui était là, qui voulait cueillir toutes les fruits. Un homme qui est venu, dans ma culture, dans notre tribu, on ne fait pas ça. On prend un fruit parce qu'on a besoin. Et le deuxième, on ne le touche pas parce que quelqu'un d'autre aura besoin.
Ah oui.
Vous voyez, le sens. Hein? Parce que moi, cet acte, il est charitable. On peut dire qu'il est charitable. Il est, donc, il dit non, je pense à l'autre. Ah, cette justification, oui. Là, il y a une justification. Mon acte justifie l'existence de l'autre.
C'est ça.
Mon acte reconnaît que l'autre, il existe. Là, c'est fantastique. Vous voyez? Et donc, je ne suis pas seul dans ce monde. Donc, je fais partie d'une communauté.
C'est ça.
Hein? Nous ne sommes pas des êtres complètement isolés. Hein? Donc, tout ça. La deuxième question que vous avez posée, c'était savoir, est-ce que la personne qui a un téléphone, est-ce que... Mais qui suis-je de juger?
C'est ça.
Hein? Comment est-ce que vous jugez s'il a besoin ou non de téléphone? Parce que moi, j'ai une voiture. Donc, qui peut juger si j'ai besoin ou non d'une voiture? J'ai une voiture. Voilà. Et besoin, pas besoin, qui peut juger? C'est une nécessité ou non? Qui peut le juger? C'est un état de fait. Donc, cette personne, s'il a un téléphone, et s'il s'épanouit, pourquoi pas? Et si elle se trouve une existence par ce téléphone, pourquoi pas?
Oui, mais regardez, on l'entend souvent, en tout cas en Occident, et à Paris, on le croise très souvent. On voit des jeunes qui sont SDF, et donc qui sont dans la rue et qui demandent de l'argent. Et moi, j'entends plusieurs fois des personnes qui disent, mais ils n'ont qu'à aller travailler, ils sont jeunes, ils sont là toute la journée. Et alors, pourquoi, quelle justification leur donner? Si on ne leur donne pas d'argent, on se dit, bah, ils n'ont qu'à aller travailler, il faut qu'ils se démènent. Nous, on s'est bien démenés pour travailler. Et quelle réflexion avez-vous sur cet exemple concret?
Moi, j'ai toujours entendu aussi, parce que j'ai travaillé de 86 à 89 dans un foyer pour réhabilitation de sans domicile fixe, mais côté aussi réfugié, mais aussi français. J'ai entendu souvent cette question. Mais ma réflexion sur ça, c'est si moi, je deviens la référence pour juger l'autre, c'est grave.
D'accord.
Hein, c'est grave parce que moi, j'ai mon passé, j'ai mon parcours, j'ai ma vie. Et donc, tout cela contribue à ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas dire à partir de cela, je ne peux pas devenir un juge. Un juge pour dire que c'est un feignant, c'est un bon à rien, c'est un je ne sais pas quoi. La question ici, c'est essayer de comprendre. Pourquoi ces personnes n'arrivent pas à trouver du travail? Et si on pose cette question, il y a plusieurs raisons. Parfois, ces personnes-là sont totalement déstructurées, socialement déstructurées, psychologiquement déstructurées. Ils ont un passé. Et ce passé ne les amène pas à trouver une utilité sociale parce qu'ils ne trouvent même pas une utilité pour eux-mêmes. Pourquoi elle existe, c'est une question. Parce que j'ai toujours, souvent, cette question m'a été posée dans ce foyer quand j'étais... Dans le foyer des secours catholiques. Les gens ils posaient la question, pourquoi j'existe? Je n'ai pas de famille. Et toi, tu as une famille, tu rentres chez toi, tu as ta femme qui attend. Question qu'ils posent. Mais moi, je n'ai rien. Je viens ici le soir, je me retrouve, après on est dans le dortoir, il n'y a pas de vie privée. Donc, les gens sont déstructurés. Donc, voilà, une compréhension, une clé de lecture. Dans cette situation, qu'est-ce que ça va dire trouver un travail? Et qu'est-ce que ça va dire structurer sur le plan de sa vie sociale. Parce qu'un travail, c'est une structuration de la vie sociale aussi. Comment il peut le faire? Mais c'est ici, souvent, quand on ne les juge pas, quand on les accompagne, il arrive à s'en sortir. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, dans ce domaine, c'est comment à partir de démarches solidaires, être charitable, pour qu'eux, ils puissent grandir, et pour que nous puissions ensemble grandir. Et donc là, c'est là le vrai défi aujourd'hui. Et c'est ici on va structurer la personne, structurer la personne, sa vie, etc. On contribue. Sinon, on risque de rester sur les représentations sociales qui vont être ma représentation de de beaucoup de choses, mmh. et je deviens la référence, oui, je peux juger. Mmh. Oui.
Aloy John, malheureusement, l'interview va s'achever, mais j'avais quand même deux questions, mais une toute première. Nous avons parlé, finalement, nous connaissons, on a tous la réponse du besoin des pauvres. Je voudrais retourner la question. Actuellement, quels sont les besoins des riches?
Besoin des riches, si on voit sur le plan de théorie de Maslow, du point de vue théorique, ils ont tout.
Oui.
Mais ce que Maslow n'a pas souvent mis en avant, c'est cette dimension spirituelle,
oui. hein,
la dimension de valeur, la place de l'homme dans la société. Et la place de l'homme dans la société, c'est plutôt vivre son humanité, découvrir son humanité, parce que moi, je dois découvrir mon humanité au quotidien. Mm-hmm. Sinon, ça devient trop arrêté. Hein. Donc, il faut que je découvre, pour que je puisse toujours être en communion avec les autres, parce que les choses changent, les personnes changent. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, le besoin, si on pose la question, quels sont les besoins des riches, la question, c'est difficile et à répondre, et complexe à répondre, mais je dirais d'abord, sens de l'homme, le sens spirituel, et je dirais même, la valeur qui peut nous rendre plus humains. Parce que souvent, l'argent ou autre, ça ne nous rend pas humains, ça nous rend des gens riches, heureux, on peut dire, tout ce qu'on veut, mais par contre, pas humains. Donc, voilà.
J'aimerais vous écouter des heures parce que vous avez une profondeur de la réflexion et on sent l'amour de l'humain que vous avez. Mes dernières questions, Aloy Jones, à tous les étudiants et les étudiantes qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir?
Message d'espérance Le message d'espérance que je me donne à moi-même, que je peux partager, c'est je dois être un professionnel, mais pas seulement un professionnel robot, comme un robot, mais plutôt un professionnel avec la dimension de cœur. Et cette dimension de cœur qui m'amènera à être plus efficace pour transformer ce monde, pour contribuer à transformer ce monde. Et si nous sommes tous, si nous agissons tous de cette manière, je pense qu'un jour, le monde sera meilleur. On peut, et c'est mon rêve, et c'est le rêve que je partagerai avec les étudiants.
Un très grand merci. Merci pour votre humanité. Et je crois que vous m'avez permis de faire la transition avec la dernière citation qui, à mon sens, vous caractérise le plus, de Saint-Exupéry qui souligne « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux ». Merci de nous avoir donné cette lumière de votre cœur, cette lumière de cœur. Et surtout, merci de l'amour que vous avez, incommensurable que vous avez pour les pauvres. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir reçu.
Merci.
Merci.